Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le mercredi 14 octobre, il est 7h.
6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
Et à la une ce matin, c'est Emmanuel Macron à l'heure des choix. Le président s'invite à la télévision juste avant 20h. Va-t-il annoncer un couvre-feu dans les grandes villes ? Mulhouse l'avait fait au printemps avec succès, vous l'entendrez. Partout en Europe, on serre la vis. Reconfinement partiel aux Pays-Bas, interdiction des fêtes en Italie. L'Union européenne, elle, fait tout pour éviter de fermer de nouveau ses frontières. Le détail dans un instant. Et puis, il n'y aura pas de salon de l'agriculture à Paris en 2021 à cause du Covid. Également, les agriculteurs sont très très déçus. Témoignage dans un instant.
Radio Classique.
Lucille Bréau, il faut donc s'attendre ce soir de la part d'Emmanuel Macron à un véritable électrochoc.
Le chef de l'État qui s'invite à la table des Français ce soir. 45 minutes d'entretien à partir de 19h55 sur TF1 et France 2 avec à la clé de nouvelles mesures plus contraignantes dans les grandes villes. Le mot couvre-feu est sur toutes les lèvres. Entre mars et mai dernier, les villes de Mulhouse et Nancy l'avaient mis en place pour freiner la propagation du virus dans le Grand Est. Tous les déplacements étaient interdits là-bas de 21h à minuit. Les commerces fermés, y compris alimentaires et livraison à domicile, eh bien cela s'est avéré payant pour la maire de Mulhouse, Michèle Lutz.
On a pu déduire rapidement que le fait d'être en confinement général et d'appliquer en plus un couvre-feu faisait qu'effectivement nous avions une inversion des courbes en termes de malades qui étaient admis pour des cas graves en réanimation. C'est un dispositif qui est extrême, hein, mais je pense que si on veut avoir des résultats, il faut à un moment donné passer dans ces dispositifs-là. Alors c'est vrai qu'on limite les plaisirs, on limite les libertés, mais je crois qu'on a tous, en tout cas à Mulhouse, hein, puisqu'on a été la ville la plus fortement impactée, nous avons tous des souvenirs autour de nous de personnes qui malheureusement sont décédées ou qui sont encore malades à l'heure où nous nous parlons.
Des propos recueillis par Rémi Vallès. De fait, les indicateurs ne sont pas bons dans notre pays. Plus de 1500 personnes sont hospitalisées aujourd'hui en réanimation. Près de 33 000 sont décédées depuis le début de l'épidémie. 87 de plus hier.
Alors le chef de l'État, Lucille, devrait également annoncer une accélération des tests.
Avec la mise en service de nouvelles techniques beaucoup plus rapides pour désengorger les laboratoires, comme les tests antigéniques qui permettent d'obtenir un résultat en 20 minutes seulement. Le prélèvement s'effectue toujours dans le nez, mais le résultat est moins fiable que les tests PCR. Certains médecins poussent pour étendre plutôt les tests salivaires. Rémi Pfister.
L'idée, c'est d'utiliser ces tests antigéniques pour isoler rapidement les cas positifs dans des clusters comme des EHPAD ou des universités. Problème, ce test se fait toujours au moyen d'un prélèvement nasal, selon François Blochcotte, président du Syndicat national des biologistes.
Vous avez obligatoirement à prélever chaque patient, ensuite à étaler sur une plaquette et vous lisez chaque plaquette au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. Donc ça veut dire qu'il faut étaler des dizaines de plaquettes sur une table. Quand vous transvasez un écouvillon, vous le mettez dans l'air et vous pouvez contaminer le préleveur aussi bien que la personne qui manipule ces plaquettes. Donc on est très inquiet pour savoir de quelle manière ça peut se mettre en œuvre.
Autre problème, il n'est fiable qu'à 60% alors que les tests salivaires, eux, le sont à 90%. Pourtant, ils se font attendre. La Haute Autorité de Santé ne les a pas validés pour le dépistage de masse. Une aberration pour Franck Molina, directeur de recherche au CNRS, à l'origine de ces tests.
C'est un outil extrêmement performant pour faire les tests là où on n'en fait pas et on devrait en faire. Dans les entreprises sont extrêmement demandeuses et on ne teste pas les gens qui propagent cette infection, qui sont souvent des asymptomatiques, qui s'ignorent.
Et signe d'une forte demande, une entreprise toulousaine a mis au point un dépistage salivaire envoyé par la poste et à réaliser soi-même à la maison. Cela a un coût, 40 euros, mais à chaque réassort, les stocks s'envolent en 30 minutes.
Rémi Pfister, on n'avait jamais vu autant de potentiels cobayes. 25 000 volontaires se sont signalés en 10 jours auprès de l'INSERM pour tester d'éventuels vaccins. Le recrutement continue. La Banque mondiale, elle, va dégager 12 milliards de dollars pour fournir des vaccins aux pays les plus pauvres, alors que les essais cliniques connaissent des difficultés en ce moment. Après l'américain Johnson & Johnson hier, c'est le laboratoire Eli Lilly qui a dû suspendre cette nuit ses essais. Des participants avaient développé des effets secondaires.
Et plus globalement, c'est toute l'Europe qui est en train de se rebarricader face à la seconde vague.
Confiance. confinement partiel aux Pays-Bas, les bars et les restaurants ferment totalement à partir d'aujourd'hui. En Italie, interdiction désormais d'inviter plus de 6 personnes chez soi à domicile. L'Union européenne, elle, tente comme elle peut d'éviter une fermeture totale de ses frontières, comme au printemps. Une carte des pays européens va désormais être publiée chaque semaine pour informer les voyageurs. Elle indiquera en rouge les zones à risque, Émilie Vallès.
Les États membres se sont mis d'accord, il sera désormais impossible de refuser sur son territoire des voyageurs venant de l'Union européenne, comme le fait la Hongrie actuellement. Fabienne Keller, députée européenne.
Cette capacité de coordination était symbolique pour faire vivre l'Europe. La libre circulation des personnes est en effet une des grandes victoires de l'Union européenne. Donc il était bien naturel que les ministres des Affaires européennes s'y penchent avec les contraintes européennes. Voilà, il faut décider à 27, il faut prendre du temps et convaincre s'agissant de missions qui relèvent avant tout de l'échelon national.
C'est un premier pas, cela clarifie la situation, mais ça ne va pas faciliter les déplacements, regrettent de leur côté les professionnels du tourisme. Chaque pays sera encore libre d'imposer des tests ou bien une quarantaine. Les États membres n'ont d'ailleurs pas réussi à se mettre d'accord sur une durée de cet isolement. René-Marc Chicly, président du syndicat des entreprises de tour operating.
Chaque État va continuer à faire de toute façon ce qu'il a bien l'intention de faire. Donc c'est pour ça que nous, on veut des tests antigéniques qui permettent aux clients d'avoir une réponse extrêmement rapide et puis vous présenter à l'aéroport et vous montrer le résultat de votre test. Ça serait très bien.
Selon les professionnels, le tourisme intra-européen au départ et à destination de la France est en baisse de 80%.
Émilie Vallès, le coronavirus qui a également eu raison du salon de l'agriculture. La plus grande ferme de France ne se tiendra pas en février-mars prochain, porte de Versailles à Paris. Adieu vos vaches cochons. La déception des agriculteurs est très grande ce matin. Vincent Guyot est éleveur céréalier dans l'Aisne. On écoute.
C'est une triste nouvelle parce que c'est un petit peu le pèlerinage d'aller au salon de l'agriculture. Ça faisait partie d'un repère, entre guillemets, dans la communication des agriculteurs. Mais bon, on s'attendait à cette nouvelle en compte tenu de la lourdeur logistique qu'il y a derrière le salon de l'agriculture. C'est quand même une manifestation énorme. Et l'annonce, elle se devait d'être précoce de façon à pouvoir être totalement transparent par rapport aux opérationnels des différents stands et ne pas partir dans de l'organisation qui aurait entraîné une annulation.
Et maigre consolation pour les agriculteurs, le concours général agricole se tiendra quand même, mais de manière délocalisée en région.
Dans le reste de l'actualité ce matin, les syndicats de policiers satisfaits après leur rencontre avec Gérald Darmanin.
Le ministre de l'Intérieur qui les a reçus en fin de journée hier, il a annoncé un certain nombre de mesures pour améliorer leur quotidien. Une prime par exemple de 60 à 100 euros de plus par mois pour les 22 000 fonctionnaires qui travaillent de nuit. Enfin, 6 jours après la violente attaque qui a visé 2 policiers à Herblay dans le Val-d'Oise, l'un des 3 suspects a été mis en examen hier pour tentative de meurtre. Il s'était rendu lui-même à la police. Ses 2 complices présumé reste introuvable.
Merci Lucille Bréau, vous revenez tout à l'heure pour le journal de 8h. Dans un instant sur Radio Classique, le rappel des titres de l'économie. Avec François Vidal des Échos, on va parler de des retraites et le grand plongeon à nouveau des déficits. Et puis notre invité ce matin, nous serons avec Catherine Chapalin, la directrice générale de l'ANIA, l'association...